9. Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 19 mai. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, des températures dangereuses pour la santé. L'Inde en proie à une canicule intense et précoce, alors qu'en France, les producteurs de pommes de terre cherchent des solutions à la chaleur et à la sécheresse. On voit ça, Anaïs, en début de journal, après les autres titres.
Les employés de Vallourec, amers à Saint-Saulve, la tuberie va fermer, annonce faite après la présidentielle, parole de salarié dans un instant. Test crucial la nuit prochaine pour Starliner, le concurrent de SpaceX pour ramener les astronautes à la station spatiale internationale. Et puis nouvelle traduction et nouvelle édition des journaux et de la correspondance de Franz Kafka publiée aujourd'hui.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Une icône des mers devenue écrivaine. Elle est la première navigatrice à avoir accompli un tour du monde en solitaire. C'était il y a plus de 30 ans. Elle est également présidente d'honneur de WWF France, mais on l'invite ce matin parce qu'elle sort un nouveau roman d'anticipation, une fable réussie. Ça s'appelle Le naufrage de Venise chez Stock. Isabelle Autissier sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, on se retrouve Léa à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec l'historien professeur au Collège de France, Patrick Boucheron. Il publie Nous sommes ici, nous rêvons d'ailleurs, c'est aux éditions Verdier. Vous pourrez dialoguer avec lui tout à l'heure. Appelez-nous, le standard est ouvert, il vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter. Ce sont des images saisissantes, celles d'un train chargé de 2 millions de litres d'eau autour duquel se pressent des enfants chargés de bidons. Ces images aussi d'oiseaux déshydratés qui chutent en plein vol, fauchés par la chaleur. Voilà à quoi ressemble la canicule exceptionnelle qui frappe l'Inde. Jamais aussi précoce dans l'année, 49 degrés dépassés à New Delhi, un record absolu pour la capitale. Ces températures extrêmes sont dangereuses, surtout pour ceux qui travaillent en plein air. Reportage de notre correspondant Sébastien Farcy dans la région torride du nord-ouest de l'Inde à Ahmedabad.
Il est 14h, le thermomètre frôle les 47 degrés. La ville d'Ahmedabad avance au ralenti, mais les chantiers de construction, eux, tournent à plein régime. 12 ouvriers bâtissent une nouvelle usine. Anupangla, la peau tannée, est le superviseur.
Entre midi et 4 heures, la chaleur est infernale. Alors nous nous arrêtons pendant une heure. Le reste du temps, nous aspergeons de l'eau autour du chantier pour rafraîchir l'air. Notre employeur nous donne aussi des bouteilles d'eau fraîche.
Ces travailleurs assurent ne pas souffrir d'étourdissement ou de diarrhée, deux signes d'un réchauffement excessif du corps humain. Mais ils ne sont pas à l'abri des risques, avertit Vipul Pandya, le président du syndicat des ouvriers de la construction à Ahmedabad.
Les accidents augmentent à cette saison parce que certains ouvriers font des chutes après avoir perdu connaissance. Il n'y a jamais d'enquête pour déterminer les causes, mais ces accidents peuvent être liés à la chaleur.
Selon l'Organisation internationale du travail, le réchauffement climatique devrait entraîner en Inde une baisse de cette activité de construction de 9% d'ici à 2030, ce qui peut faire exploser le chômage. À Ahmedabad, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Et à la chaleur s'ajoute la sécheresse. Le débit du grand fleuve, l'Indus, a été réduit de 65%. Des épisodes de chaleur plus fréquents et plus précoces, c'est ce qui se passe aussi en France. Plusieurs records de température battus hier et déjà 38 jours consécutifs au-dessus des normales au mois de mai, avec pour conséquence 22 départements en rouge sur la carte des risques sécheresse et des producteurs de pommes de terre qui se demandent comment s'adapter. Ils étaient réunis hier à Paris, Maria Melkurdi.
Arnaud Chombard est producteur de pommes de terre dans la Somme depuis 27 ans et il est obligé d'irriguer ses sols asséchés plutôt que d'habitude.
On subit plutôt la situation quand on doit arroser qu'autre chose. Après, comme on a des volumes qui sont attribués, s'il continue à faire très sec, on n'aura pas assez d'eau pour pousser la production jusqu'au bout de sa rentabilité économique.
Depuis 3 ans, il met en place des solutions pour faire face aux aléas climatiques.
Sur mes parcelles de pommes de terre, l'hiver, j'essaye d'implanter des cultures intermédiaires. Les plantes qui sont installées pendant l'hiver permettent de garder l'humidité dans le sol beaucoup plus longtemps qu'un sol qu'élaboré.
Pour l'instant, pas d'inquiétude, mais il ne faudrait pas que la sécheresse dure trop longtemps.
Si la période dure vraiment jusqu'à la récolte, hein, il y aura forcément des pertes. On peut l'estimer à une 20% avec irrigation.
Comment rendre la pomme de terre plus résistante au changement climatique? C'est le grand défi de la filière. Les producteurs travaillent en étroite collaboration avec des ingénieurs spécialisés comme Cyril Hanon. Il pilote des projets de recherche et développement.
Le monde, on va dire, de la création variétale travaille pour avoir des variétés qui naturellement résistent mieux à la sécheresse.
C'est la génétique?
C'est la génétique, voilà, qui peut nous apporter un impact positif pour notre culture de pommes de terre dans 10 ou ou 15 ans, puisqu'une variété, entre le moment où elle commence à être réfléchie et le moment où elle va être créée, il peut se passer 10 ou 15 ans.
Et cette pomme de terre de demain sera sans doute différente, peut-être moins ronde, moins jolie, mais moins consommatrice d'eau et d'énergie.
Et le mois de mai 2022 sera sans doute le plus chaud depuis 1945.
Il est 7h05, la réaction de Bercy après l'annonce du plan social de Vallourec hier.
Le ministère de l'économie demande aux fabricants français de tubes de minimiser les conséquences de son plan sur les activités françaises. Hier, Vallourec a annoncé qu'il allait supprimer près de 3000 postes dans le monde, dont 320 en France, et la fermeture de la tuberie de Saint-Saulve dans le Nord, 104 salariés concernés. Premier plan social depuis qu'Elisabeth Borne est à Matignon. Maxime Deps a recueilli à Saint-Saulve la parole de salariés entre colère et résignation.
Il y a ceux d'abord qui n'ont rien voulu dire.
Pour rester poli, là la colère me monte, je vais vraiment m'énerver.
C'est un peu dur quoi.
Ceux qui n'ont pas su.
Que voulez-vous que je vous dise ? Encore un site qui ferme, ouais, voilà. Encore un site Vallourec.
Et ceux la gorge nouée comme Philippe, 27 ans, à la tuberie.
Ça fait mal.
La douleur et la colère avec ce sentiment que ce plan était prévu depuis longtemps, que c'est en tout cas troublant qu'il ne soit annoncé que maintenant.
Le timing est bien voulu. Pendant la présidentielle, on ne va pas faire trop de bruit, quoi.
Présidentielle derrière, Emmanuel Macron réélu, Michaël Tison, délégué CFDT de l'usine, veut lui rappeler un épisode.
Après, on l'a reçu ici, Monsieur Macron. Il était à ce moment-là ministre de l'économie. Il allait sur YouTube chercher la visite de Monsieur Macron sur YouTube. Sur cette vidéo, il dit bien que jamais la tuberie de Sarcelle ne fermera.
C'était en 2015, un contexte différent. Il n'y aura, avait dit Emmanuel Macron, pas de fermeture de site, pas de départ contraint. Aujourd'hui, Julien n'attend plus rien, ni du président, ni de personne.
Les politiques, ils vont faire quoi? Franchement, il n'y a pas d'illusion, on va fermer. Voilà quoi.
Moins radical, son délégué syndical compte lui tout de même interpeller les élus et le nouveau gouvernement.
On risquera quand même. Maintenant, à eux de faire leur preuve. Qu'ils viennent frapper à notre porte pour nous aider, à partir dignement. Parce que maintenant, c'est juste ça qu'il faut.
Les salariés qui espèrent obtenir au minimum des indemnités similaires aux 5 plans sociaux de ces 10 dernières années.
Maxime Deps à Saint-Saulve avec Sandrine Malon. L'État détient encore plus de 2% du capital de Vallourec. Mais qui sera le ministre de l'économie qui va gérer ce dossier? On est toujours dans l'attente de la formation du gouvernement Borne. Le chef de file des députés Les Républicains, Damien Abad, en fera-t-il partie? Ce serait une belle prise pour la Macronie. Mais dans son camp, Anne Souhaitement, on le somme de clarifier sa situation.
Combien de temps pourra-t-il encore tenir? Après des semaines à entretenir l'ambiguïté, aidé par une République en marche qui n'a mis aucun candidat face à lui aux législatives, Damien Abad l'a promis, il clarifiera sa position avant demain. C'est que la pression est maximale. Cette semaine, le patron des députés LR s'est retrouvé seul face à une quarantaine d'élus en visio. C'était son procès, raconte un participant. Pendant plus d'une heure, les interventions s'enchaînent. Le président du parti, Christian Jacob, Éric Ciotti, des députés expérimentés et de la jeune génération, des partisans de la ligne dure et de la droite sociale, tous s'en prennent à Damien Abad. Tu dois choisir, soit LR, soit la majorité. Tu ne peux pas continuer à nous manquer de respect. Un participant demande même un vote de défiance. Damien Abad, qui avait clairement appelé à voter Macron au second tour de la présidentielle, accuse réception des critiques mais ne tranche pas. En promettant une clarification avant demain, il mise sur une entrée au gouvernement pour lui simplifier la tâche, s'énerve un député LR. Au moins, il est fidèle dans la trahison, conclut un poids lourd de droite.
L'ONG Foodwatch doit déposer 2 plaintes aujourd'hui pour tromperie aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. Selon Le Parisien aujourd'hui en France, Foodwatch veut maintenir la pression sur Buitoni et sur Ferrero après les scandales sanitaires des pizzas et des œufs Kinder contaminés.
Il est 7h09, la bannière étoilée flotte à nouveau sur l'ambassade américaine de Kiev.
Elle a rouvert hier, 3 mois après son transfert à Lviv avant l'invasion russe en Ukraine. L'Ukraine qui évalue ses besoins à 5 milliards de dollars par mois pour réussir à faire tourner son économie. Les membres du G7 se retrouvent aujourd'hui et demain en Allemagne pour tenter de couvrir le budget du trimestre en cours. Et puis, la Russie, de son côté, bannit pour la première fois un média occidental. CBC Radio-Canada va devoir fermer, les visas des journalistes vont être annulés. Ça doit être le 2e moyen de transport de la NASA pour acheminer des astronautes vers la Station Spatiale Internationale. La capsule Starliner de Boeing, pour l'instant, pas encore vraiment au point. Un test crucial a lieu la nuit prochaine, car Boeing n'a pas réussi à avancer aussi vite que l'autre entreprise américaine, SpaceX et sa capsule Crew Dragon. Pourtant, Sophie Becherel, Boeing est une entreprise phare dans le spatial américain. Elle a fabriqué les navettes et la fusée Delta, mais le retard actuel est dû à une longue liste de déboires.
Depuis 2 ans et demi, Starliner accumule les déconvenues. La première tentative d'amarrage à l'ISS en décembre 2019 a échoué, pour cause cause de logiciels défaillants, la capsule n'a jamais atteint l'altitude requise. D'où un retour sur Terre précipité, non sans connaître une grave anomalie au moment de la traversée de l'atmosphère. Boeing a fabriqué une deuxième capsule sur ses propres deniers et non ceux de la NASA. Confiant, l'industriel pensait même qu'elle serait certifiée à temps pour emmener vers l'espace Thomas Pesquet et son équipage. Peine perdue, alors que SpaceX, le concurrent, fait des allers-retours réguliers, Starliner se débat dans des soucis d'ingénierie. L'été dernier, une nouvelle date a été annoncée en juillet, mais il a fallu encore reporter la tentative afin de laisser les Russes amarrer à l'ISS leur nouveau module scientifique. Arrive le mois d'août, là encore, à quelques heures du décollage, 13 vannes du système de propulsion refusent de s'ouvrir. Comprendre pourquoi a été long. Résultat, l'essai de la nuit prochaine est capital pour la crédibilité des équipes, même s'il se fera sans équipage, avec du fret seulement. Avant la certification de ce nouveau véhicule, le chemin est encore long.
Des joueuses de foot aussi bien payées que leurs homologues masculins. C'est l'accord historique de la Fédération américaine de football pour des salaires égaux. Il faut dire que dans le soccer, les femmes brillent 4 fois championnes du monde alors que les hommes n'ont jamais fait mieux qu'une 3e place en Coupe du Monde en 1930. C'est à lire sur franceinter.fr. Enfin, c'est l'aboutissement d'un travail titanesque. 2 nouveaux tomes des œuvres de Franz Kafka publiés aujourd'hui à la Pléiade qui nous permettent de retrouver les journaux et la correspondance de l'écrivain pragois, comme cette lettre au père, jamais lue par le père en question, dans laquelle il écrit « J'aurais eu besoin d'un peu de stimulation, qu'on me fraye un peu mon chemin au lieu de me le barrer comme tu l'as fait ». Ilana Mor-Youssef, cette nouvelle édition permet de suivre le fil de son existence.
C'est une chose connue, beaucoup de textes de Kafka n'auraient jamais dû nous parvenir, il en avait ordonné la destruction. Jean-Pierre Lefebvre, qui a dirigé cette édition, s'est posé la question lui aussi. Publier, ne pas publier ?
Peu à peu, il m'est apparu que voir Kafka dans ces circonstances-là, c'était surtout l'entendre. On a des documents bruts de la parole de Kafka, la façon dont ça vient, dont ça surgit. Et je pense avoir identifié dans ses lettres, justement, dans le journal aussi, et lui-même en fait état un jour, un peu le secret de l'écriture de Kafka, qui fascine tout le monde.
La clarté, la sobriété, l'absence d'ornement de l'allemand de Kafka seraient, selon Jean-Pierre Lefebvre, dues à son appréhension de cette langue qui était la sienne et en même temps pas tout à fait la sienne. Quant aux lettres à Félicé et à Milena...
Quand on étudie les choses de près, de manière un peu minutieuse, l'histoire avec Milena est extrêmement intéressante et éclairante pour comprendre quel était le psychisme de cet homme, quoi. Sa difficulté à vivre, d'une certaine manière, une solitude profonde, alors qu'il était entouré de gens.
Presque un siècle après sa mort, la fascination qu'il exerce reste intacte.
Journaux et lettres de Franz Kafka à la Pléiade aux éditions Gallimard, c'est publié aujourd'hui.
Merci Anaïs Feuga. Secret d'info dans 3 minutes, une enquête aujourd'hui au cœur de la centrale d'achat suisse d'Orpea.